Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une poussée de bouton avant un événement important? Un rendez-vous pro, un date ou un événement que vous attendiez depuis longtemps? Si c'est le cas, je voudrais vous parler du sérum acide salicylique anti-imperfection de Caudalie, notre sponsor en ce moment. Ce sérum de la gamme Vinopure, c'est la solution naturelle des peaux à tendance acnéique qui améliore la qualité de votre peau avec deux fois moins de boutons dès une semaine. Le sérum combine un trio d'actifs puissants naturellement efficaces pour lutter contre les imperfections, acide salicylique, niacinamide et polyphénol. De quoi retrouver une peau plus belle et équilibrée au quotidien. Merci à Caudalie pour leur soutien et bonne écoute.
Louis. Vous vous souvenez probablement du moment où vous avez perdu votre virginité. Vous aviez peut-être 15 ans, peut-être 25. Est-ce que vous aviez bu? Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous aviez préparé votre tenue et votre corps? Ou est-ce que c'était inattendu, le bruit de la soirée dans le salon parvenant jusqu'à la chambre où vous vous étiez glissé? Est-ce que vous avez eu mal? Est-ce que d'emblée vous avez joui? Et puis, il y a eu un après, c'était fait. Imaginez que ça ait tardé à venir. Vous aviez 25 ans, puis 26, puis sous un 30. À quel âge est-ce que cela devient une source d'inquiétude? À quel âge se dit-on qu'on a raté le coche et l'inquiétude devient angoisse, trop grande pour être dite, se transforme en secret? Est-ce que tard peut devenir trop tard? Sur la page Wikipédia du mot virginité, on lit « C'est surtout la virginité féminine qui représente un enjeu, tandis que celle des hommes est de faible importance. » Je suis Charlotte Pudlowski.
Je suis Maureen Wilson.
L'épisode d'aujourd'hui est signé Lucille Rousseau-Garcia. Bienvenue dans Passage.
Quand on parle vieille fille ou vieux garçon, on pense à quoi? On pense à la bonne sœur qui a de la moustache et qui est habillée comme en 1950. On pense à la fille qui vit avec sa mère et qui est complètement renfermée. On pense au vieux garçon qui vit dans sa bergerie avec ses chèvres au fin fond du Larzac. Mais en fait, moi, je suis une fille qui bosse dans les médias à Paris et qui a plein de copains et que les gens aiment bien et qui est plutôt vivante. Mais je suis quand même cette vieille fille-là. Alors, ça ne correspond pas à l'image qu'on projette sur cette thématique.
J'ai 19 ans, je suis à l'école de cinéma et sans rien voir venir, lors d'une réunion pour un court-métrage, il y a un garçon qui s'appelle Fabrice et qui est super chouette avec moi et je vois bien qu'il est super chouette d'une façon dont les autres garçons n'ont pas forcément été super chouettes de cette façon-là avant avec moi. Donc il y a quelque chose d'un peu différent dans sa façon de me parler, dans sa façon de me regarder. Et j'ai une vraie attirance pour lui. J'ai un truc physique, quoi. Et on fait un court-métrage ensemble et je vois bien que lui, il vient très facilement vers moi, il vient très facilement me parler. Je vois qu'il me fait même des compliments. Pas des compliments directement sur moi, mais des rapports à des choses qu'on a déjà vécues ensemble. Enfin, il est attentionné, en fait. Tout ça sont des choses que je vois. Ça dure 3 jours et au bout du 3e jour, moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'embrasser. Hein. J'ai un vrai truc physique avec lui. Et c'est comme une évidence que ça va se passer. À la fin du 3e jour, en fait, on remballe tout le matériel, tout est dans l'ascenseur, et lui, il monte dans l'ascenseur pour descendre avec tout ce matériel arrangé. Moi, je suis devant l'ascenseur avec une autre personne, et il me dit, viens avec moi, monte dans l'ascenseur avec moi. Alors, n'importe quelle fille normale qui craque complètement pour ce garçon dirait, j'arrive. Et moi, je dis, non, non, c'est bon, merci, je te prendrai le suivant. Et il insiste, mais non, non, mais Catherine, monte avec moi dans l'ascenseur. Non, non, je prendrai le suivant. Et là, la porte donc se ferme, mais la personne à côté de moi me dit, je crois qu'il voulait vraiment que tu montes dans l'ascenseur. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, je suis partie sans me dire quoi que ce soit. 15 jours après, je suis à ce moment-là chez mes parents et je suis dans ma chambre et là, j'ai comme un comme une sorte de remontée de réalité et je me dis « Waouh, mince en fait, c'est ça qui s'est passé ». Donc j'ai répondu non à ce garçon que j'ai tellement envie de l'embrasser, mais je lui ai dit non. Mais je m'en rends compte 15 jours après en fait. Et quand je m'en rends compte, je suis hyper triste et hyper amère et puis je me dis « Mais je suis vraiment idiote, enfin, c'est pas possible d'être si idiote ». Mais voilà, je me rends compte de ce ratage trop tard. Parce qu'après, bien sûr, ce garçon, je l'aime toujours beaucoup. Donc, j'essaye de me rattraper. Après, je l'appelle, je lui donne des rendez-vous. À une ou deux soirées, j'essaye de me rapprocher de lui. Mais c'est trop tard, en fait. Donc, c'est un énorme ratage non voulu et qui me fait prendre conscience que faut pas que je demande trop parce que c'est peut-être pas pour moi et ça risque pas d'arriver tout de suite. J'ai l'école de cinéma, j'ai mes copains, mes copines, ma première vraie bande de copains. On est quand même presque tout le temps ensemble. Donc on se connaît quand même très très bien, quoi. Tout le monde autour de moi vit des histoires, a des copains, des copines, des nuits, des slows, des danses, des frissons, des trucs. Mais c'est vrai que moi j'ai rien à raconter, parce que j'ai pas d'histoire d'amour, je raconte pas les envies que je peux avoir, les vues que je peux avoir sur certains garçons. Tout ça, je le garde vachement pour moi. Et donc, elles ont plein de trucs à raconter. Elles voient bien que moi, j'ai pas grand-chose à raconter, mais elles me pressent pas du tout de questions, en fait. Moi, je joue en plus très bien le rôle de poser des questions. Donc, en fait... J'ai pas besoin de raconter parce qu'on me demande pas vraiment. À 22 ans, je commence à travailler. Et je me retrouve, moi qui suis très réservée, dans un travail de communication. Donc je passe mes journées au téléphone, moi qui n'aime pas parler. J'ai l'impression, en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression d'apprendre que ma personnalité évolue, en fait, et que je suis beaucoup moins fermée qu'avant, mais de m'ouvrir. Donc je me sens bien là-dedans. Donc je continue, en fait, à travailler dans la télévision. Je me fais plein d'amitiés, de copinage. Voilà, moi j'ai 30 ans, c'est des gens avec qui on va boire des coups, on va au resto tout le temps, on sort beaucoup. Mais après, je raconte jamais rien d'intime sur moi. Ça continue, en fait, le même schéma que j'avais avec mes amis à 20 ans, il continue. Si moi je parle pas de mes histoires, personne va trop me poser de questions. Donc je laisse aussi encore beaucoup les gens parler, et puis je reste en surface. Et du coup, pour moi, de ne pas en parler, c'est toujours pareil. C'est que quand on n'en parle pas, ça n'existe pas vraiment. C'est vrai qu'au début, on est nombreux à être célibataires. Et puis c'est vrai que petit à petit, les gens sont en couple, puis les gens ont des enfants. Et il y a une frustration quand même qui s'installe un peu. Et c'est cette frustration qui grossit quand même d'année en année. Vers la fin de la trentaine, ça grossit quand même pas mal, quoi. Et je sais que c'est jamais agréable de se retrouver... un dîner où on est la seule célibataire, parce qu'en fait, on a l'impression d'être de pas exister autant que les autres. d'être quand même seule face au reste du monde, en fait. Là, j'ai 40 ans. Les matins, ils se ressemblent. Les matins, il faut aller au travail jusqu'au soir. C'est des grosses journées de travail, mais c'est vrai qu'un matin, je suis dans le bus et je commence à pleurer et je me dis que je ne vais pas réussir à y aller, en fait. Physiquement, je sens que je ne suis plus en capacité de faire croire que je peux être au travail, que je peux être sympa, que je peux être souriante et que je peux faire face à la normalité de la journée. Je vais chez un médecin à Boulogne qui me dit « Je vous conseille une collègue qui est psychologue qui va vous aider, appelez-la de ma part. » Et j'y suis allée, je pense, 2 jours après. Elle me posait des questions, je lui répondais. Elle me parlait de ma famille, elle faisait des schémas. Et en fait, en 3 mois avec elle, j'ai quand même l'impression d'avancer et de ne pas me laisser dans ce creux, en fait. Parce que je sens quand même que j'ai atteint un peu un creux et que ça ne va pas aussi bien qu'avant, quoi. Cette virginité-là, et à ce moment-là, elle est quand même très importante, quoi. J'ai 43 ans et j'ai jamais touché quelqu'un, personne m'a jamais touché. C'est forcément très important dans ma construction et ma façon d'être, mais ça reste caché, quoi. Je pense que grâce à ce travail-là, ce que ça a débloqué, c'est quand même que je me suis rapprochée d'amis que j'avais déjà, mais qui ont été beaucoup plus importants qu'avant. Mes 3 grands amis que je redécouvre à ce moment-là, c'est Clémentine qui est là depuis l'école, puis j'ai 18 ans. Il y a aussi Raphaël, qui est une amie que j'ai rencontrée il y a très très longtemps au travail. Et puis il y a Cyril, qui est un garçon aussi que j'ai rencontré par le biais du travail, mais c'est le travail que je fais avec la psy, que je fais sur moi, et puis ce ras-le-bol que je ressens et que j'ai ressenti le jour de la crise. Et ben c'est tout ce travail-là que je mets en route qui m'amène à rencontrer mes amis, en fait, et à pouvoir vivre des choses avec eux. Et là, je comprends. J'expérimente ce qu'est le lien, quoi. Pas le lien physique encore, mais au moins le lien affectif avec quelqu'un. Par exemple, avec Cyril, on passe des journées ensemble à travailler et on discute de tout et de rien, du travail et d'autres choses. Et je lui dis que j'ai jamais embrassé un garçon. Et en fait, il est surpris. Il me dit, mais pas quelqu'un comme toi quand même. Pas toi. Toi, t'es quand même... Mais toi, t'es fantastique. Toi, t'as déjà... Bah bon, ça fait plaisir parce que je suis contente d'entendre qu'il me trouve chouette. Donc je sais que je parle à Raphaël, je parle à Clémentine. De ça, j'en ai jamais parlé avec elle. Mais à ce moment-là, je vais pouvoir l'évoquer. Mais c'est pas calculé, en fait. Là, je suis bien parce que en fait, j'ai pas de cachotterie, de choses à cacher. J'ai pas de personnage à me créer. Je peux être moi-même, en fait. J'ai 42 ans et un soir, je dîne avec Cyril, mon copain Cyril, sa femme et puis son meilleur ami, Thomas. Thomas, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, mais je le vois toujours seul parce qu'il est marié. Mais je ne vois pas sa femme, mais je sais que c'est compliqué entre eux en ce moment. Puis à un moment donné, il me propose de me raccompagner parce que c'est pas très loin de chez moi. Et moi, je lui dis « bah oui, viens, et puis on va boire un verre tous les deux parce qu'il est encore tôt ». Et puis on commence à boire un verre, et puis on parle beaucoup. Et puis à 2 heures, il faut sortir du café parce que à 2 heures ça ferme. Alors moi j'ai pas trop envie de le quitter parce que moi je suis pas fatiguée, on passe un bon moment. Donc assez naïvement, toujours, je lui dis, mais chez moi, j'ai une bouteille de champagne, je suis à 5 minutes, viens, on continue à discuter chez moi. Et donc, sur le chemin, je lui dis que je suis quelqu'un qui n'a jamais eu d'amoureux et qui n'a jamais même embrassé un garçon, même enfant. Et je sais que ça le surprend, je vois que ça le surprend. Et il me passe d'ailleurs la main autour de l'épaule, le bras autour de l'épaule. Donc, on continue chez moi. Bon, chez moi, j'ouvre la bouteille de champagne. Et on continue à discuter, et moi je me sens hyper bien. Je sais que je le regarde vachement, profondément dans les yeux. Et donc on est assis sur le canapé, et il me dit « Viens, on s'embrasse ». Et ma réaction c'est « Oh bah non, pas toi ». Bah en fait si, moi je l'adore ce garçon. Enfin je veux dire, c'est un peu le garçon de mes rêves, Thomas. C'est pas du tout la réponse que je voudrais, si je raisonnais, lui faire quoi. Mais la chance que j'ai, c'est que ce garçon-là, eh ben, il y revient. Et il me dit une deuxième fois, « Mais si, viens, on s'embrasse. » Et en fait, je me suis laissée me faire embrasser. Et j'ai embrassé pour la première fois un garçon. Ce qui est marrant, c'est que c'est très agréable, pas du tout compliqué, très naturel. Mais je suis quand même rattrapée par mes démons parce que ça s'arrête tout de suite. Et à peine le baiser s'arrête, je reprends mon blabla, ma discussion, comme si de rien n'était. Et je pense qu'on continue à discuter encore une heure ou deux, et bon, il se fait un peu tard quand même. Et là, il me dit, bon, allez, je vais y aller. Et donc, je le raccompagne à la porte. Et là, il me prend dans ses bras, mais vraiment, là, c'est un geste tendre. Après m'avoir pris dans ses bras, ça s'est transformé en un nouveau baiser. Et puis, après, ça s'est transformé en plein de caresses. Et c'est pareil, c'est fou comme c'est naturel, quoi. C'est très simple, c'est très agréable, c'est très sensuel et c'est très... je me sens pas du tout godiche, quoi. Ça m'ébatte. Voilà, donc on passe beaucoup de temps l'un contre l'autre. Et puis ensuite, le problème, c'est que j'ai un canapé, mais il est minuscule. Donc être sur ce canapé, ça va pas. J'ai un lit, une place, mais ça marche pas non plus. Alors, en fait, on s'est retrouvés par terre sur le carrelage glacé. Bon, c'était pas génial. Moi, je m'en fous complètement, moi, à ce moment-là. J'ai cette impression de facilité. J'ai l'impression, oui, de nager sur une vague de sensualité. Et on n'est pas allé au bout parce qu'on n'avait pas de préservatif. Donc, c'est une nuit de caresses et de tendresse et de baisers. Et c'est surtout... la nuit où, en fait, pour la première fois, j'ai eu envie d'enlever un vêtement pour que quelqu'un touche sensuellement et ma peau, quoi. Et en fait, c'est le geste le plus important, le plus... C'est une révélation, en fait. Enfin, humainement, c'était pas de pas avoir été embrassée qui était lourd, je pense. C'était de pas avoir été touchée. Moi, je me suis toujours vue comme un tout petit point isolé à côté d'un énorme rond, j'appelle ça une grosse patate, remplie de petits points. Donc, cet énorme rond rempli de petits points, c'est là où sont tous les autres. Et moi, je suis un petit point à côté, en périphérie. Et en fait, le geste d'être touché par un autre être humain, eh ben, c'est ce geste qui est important, c'est le lien à l'autre. C'est comme si, à ce moment-là, je suis... Je fais partie des autres humains, en fait. Après, voilà, on n'a pas été complètement au bout. Alors, je me sentais encore pas complètement dans la norme, mais humainement, ça m'avait transformée, en fait. Bon, après, en revanche, c'est assez bref, après, parce que je pense que lui, il a tout qui remonte à ce moment-là, où il se dit, oh là là, bon, j'ai quand même fait quelque chose que je n'avais pas fait avant. Ok, il faut peut-être quand même que je rentre chez moi et tout s'arrête quand même un peu à ce moment-là. Mais bon, moi, je le laisse partir et puis moi, je suis hyper heureuse à ce moment-là, quoi. Et moi, je me couche sur mon canapé et j'ai un sourire un peu jusqu'aux oreilles. Et tout de suite, à 8h ou 7h30 du matin, 8h, j'appelle ma copine Clémentine. Et ça, c'est pareil, c'est marrant parce que d'habitude, je partage rien, mais là, j'ai envie de lui dire que j'ai passé la nuit avec lui et que j'ai vécu un super truc et que je suis quand même très contente. Donc la conversation avec Clémentine, elle dure mais 2 minutes. Hein. Je rentre pas du tout dans les détails, mais j'ai besoin de le dire en fait. Je suis toujours aussi souriante en me réveillant à 11h et là je dois aller déjeuner chez mes parents. En allant déjeuner chez mes parents, je m'arrête au café. Et pour la première fois de ma vie, je me fais draguer ce matin-là. C'est comme si, en fait, ça, c'est pas un changement seulement intérieur, là, pour le coup. Ça change mon lien au monde extérieur, en fait. Le problème, c'est que moi, j'ai besoin d'en parler avec lui. Même si je savais que c'était pas simple, c'est vraiment pas simple en fait. Donc j'arrive pas à le joindre, j'arrive pas à reprendre un café avec lui, j'arrive pas à discuter avec lui. Donc en fait, on s'est pas revu avec Thomas pendant 2 ans et demi, 3 ans. De pas pouvoir en reparler avec lui, de pas reparler de ça, repartager ça, ça m'a... C'est comme si il y avait encore une négation de quelque chose. Là, c'était arrivé, mais on me le refusait encore. Ça m'empêche d'être sereine et de prendre ça comme une véritable avancée. Je dois avoir 44 ans et je trouve un atelier d'écriture avec... des tas de propositions d'angles d'écriture. Et l'un de ces angles d'écriture, c'est écrire pour se lâcher. Donc c'est celle qui donnait l'atelier, c'est une romancière qui arrivait avec une façon d'écrire, une formule d'écriture et puis un thème. Un soir, elle est arrivée, elle était vraiment... Elle était tourneboulée, ça se voyait physiquement. Et elle est arrivée en nous disant, en fait, ce soir, ça va pas. J'ai un problème avec mon mari. Là, on va profiter de ce que je ressens, moi. Et puis, je vais vous demander d'écrire. En gros, chacun devait écrire de façon très spontanée une expérience de couple. Bon, moi, je me suis retrouvée devant ma feuille et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, en fait ? Parce que l'expérience de couple personnelle, moi, j'en ai pas. Et il y a une ambiance un peu spéciale ce soir-là. Et moi, je sais pas pourquoi, si c'est cette ambiance-là, mais ça a déclenché l'envie d'écrire une réalité, quoi. Alors, j'ai pris le thème d'une plante. Donc, j'ai aidé une plante élevée sans lumière, en fait. Comme une personne élevée sans... Alors, pas sans amour. J'ai eu l'amour maternel... familial, tout ce que j'ai eu, amical, mais d'être aimée sans toucher la lumière, sans être touchée. Donc j'ai écrit ça, et mais voilà, après, en atelier d'écriture, on écrit, mais ce qui est assez fort, c'est qu'on lit ensuite aux autres. Et en fait, ça touche beaucoup les autres. C'est un moment important, en fait, pour moi. Je m'en rends compte parce que je suis très émue et je tremble un peu, en fait, à ce moment-là. Quand je le lis, c'est un peu la fin d'un mensonge, comme si je mettais fin à ce mensonge que moi-même je m'imposais en fait. Quelque chose que j'ai mis de côté pendant tellement d'années, quoi. Quelques mois après, je suis au travail et un samedi, donc il n'y a personne au travail à part Cyril avec qui je monte. Sauf que, en fait, très très vite, je m'écroule comme jamais je me suis écroulée. C'est un peu comme si j'avais plus aucune force en moi et aucune vie. Et donc, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à dire ce que je ressens, j'arrive plus à... Je vois que je perds les pédales, en fait. Donc, Cyril me dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, je lui demande d'appeler un taxi et de m'emmener à l'hôpital. Et donc, je me retrouve aux urgences de Sainte-Anne et j'y reste 2 jours. Autant le premier jour, je suis un peu dans un nuage, autant le deuxième jour, quand j'ai quand même un peu recouvré mes esprits, là, je me rends compte que je suis là et c'est assez étonnant, en fait. Je suis quand même assez costaud, assez fort. Je pensais pas me retrouver là. Dans un hôpital comme ça, psychiatrique. Et bon, Je déteste cette phrase parce qu'on l'entend souvent et ça m'a jamais parlé. Mais là, je me dis, en fait, cette phrase, elle est vraie. C'est une fois qu'on a touché le fond, on peut que remonter. Et j'ai l'impression à ce moment-là que c'est ça que je fais. C'est à ce moment-là que je me dis, il faut que j'existe. Il faut que je me sente vivante parce que finalement, je me suis jamais autorisée à exister et j'ai besoin de vivre, en fait. Quand avec ma psy, j'avance un petit peu, elle me donne ce défi-là, en fait, de m'inscrire sur un site de rencontre et puis d'aller à des rendez-vous. Et pourquoi pas essayer ? C'est pas du tout dans l'idée que ça va marcher. J'y crois pas trop, mais je me dis, continuons à avancer et à tenter des trucs. Ça coûte rien. C'est pas une passion d'aller sur ce site. Ça me demande toujours des efforts, donc j'y vais pas souvent. Parfois, je me dis, allez, vas-y, prends sur toi. Donc, je commence à parler à 2-3 garçons. Très vite, moi, je propose d'aller prendre un café, c'est quand même plus simple. Donc, je dois rencontrer 4 ou 5 garçons en tout, entre 43, 44, 45 ans. Avant d'y aller, à chaque rendez-vous, c'est l'enfer. Mais physiquement, je suis toute rouge, j'ai des plaques, je suis pas bien, quoi. Donc, à chaque fois, c'est comme un défi que je me lance, qui me demande et qui me coûte beaucoup. Et à chaque fois, c'est un fiasco total. Le premier, je l'attendais au café. À peine il est arrivé devant ma table avant de s'asseoir, j'ai vu dans son regard que je ne l'intéressais pas. Un autre était en retard, donc je l'attendais aussi. Et quand il est arrivé, moi, j'avais déjà commandé. Et donc, lui s'assoit, le garçon arrive et... Tout de suite, mon rendez-vous dit au garçon « Non, mais je vais rien boire, moi, je vais pas rester. » C'est une claque dans la face à chaque fois. Et puis, ça m'enfonce dans ce truc de « L'amour, c'est pas fait pour toi. Qu'est-ce que tu vas chercher un truc où c'est pas fait pour toi ?» Donc, c'est très douloureux. Mais après, comme je passe beaucoup de temps avec Cyril, qu'il est au courant de ses rendez-vous, qu'il me voit y aller en étant super mal à chaque fois, moi, je prends un peu l'habitude de le débriefer après. Lui raconter le fiasco, et puis du coup, c'est assez rigolo parce que j'enchaîne les catastrophes, quoi. Donc c'est assez marrant. Et finalement, oui, je me rends compte en fait que là, même si c'est négatif, ce qui se passe, j'ai quelque chose à raconter. Je suis pas juste là pour écouter, quoi. Je vis des trucs. Le 8 février 2020, 6 mois après Sainte-Anne, ça faisait longtemps que j'étais pas allée sur le site internet comme un exercice à chaque fois. Je me dis, allez, là ce soir t'as rien à faire, continue cet exercice que t'as un petit peu lâché et je retourne sur le site. Donc je regarde des photos et je tombe sur les photos d'un garçon, Olivier. C'est 2 photos qui sont comme un selfie un peu en gros plan qu'il a dû prendre un jour au travail où il s'ennuyait. Et tout de suite, je me dis, oh là là, j'adore sa tête. Donc je lui écris et on s'envoie 2-3 messages le lendemain, mais très très rapidement. Et bien sûr, comme à chaque fois, je me dis, bon, là, il faut boire un café, ça sert à rien de discuter. Et donc je lui écris, allez, on va arrêter de parler virtuellement, il faut qu'on se voit. Donc lui, il est très content et il me dit, oui, bien sûr, on se voit alors, on se voit samedi.
Ça fait faisait très très longtemps, ça faisait 4 ans que j'étais sur des sites de rencontres. Alors j'ai été marié 17 ans, j'ai eu 2 garçons et je me suis séparé il y a 5 ans. J'étais très content d'avoir ces enfants. On était un couple de parents, pas un couple d'amoureux. Donc tout tournait autour des enfants et je parlais pas de moi. J'ai été complètement effacé dans ce couple. Comme j'avais une ex-femme qui parlait que d'elle et que de son environnement à elle, évidemment, moi, je ne disais jamais rien, j'écoutais et j'ai laissé prendre cette place qui m'arrangeait certainement aussi, parce que comme ça, on n'a pas de problème. Et à un moment donné, c'est devenu dérangeant quoi, de plus exister. Corentin était en stage de 3e, c'est l'aîné. Et il voulait faire son stage en tant que graphiste avec son papa. Et on est allé un jour dans une rédaction. Et en sortant de cette rédaction, on rentre dans la voiture. Et puis je lui dis, alors, t'es content? T'as vu, c'est un grand magazine, c'est un grand féminin. Il me dit, mais oui, papa, je suis super content, mais en fait, je te connais pas. Et ça m'a fait vraiment bizarre de passer à côté de mes enfants. Et de ne pas pouvoir raconter à la maison ce que c'était et ce que j'étais vraiment. Début 2020, donc, je vaquais à cette occupation qui était mes sites de rencontre. Donc, j'envoyais souvent le même texte à toutes les filles qui matchaient sur le site. Et donc, t'attends que ça réagisse, etc. Puis Catherine réagit, on commence à s'écrire. Et puis, on s'envoie 2-3 messages. Et puis, on se fixe un rendez-vous quelques jours plus tard.
Et donc, j'arrive en bas de chez lui. On avait rendez-vous en terrasse en bas de chez lui, dans le 10e, et je le vois. C'est pas du tout un coup de foudre à me dire « Oh là là, lui, il y a de l'enjeu, lui, il me plaît. » Non, c'est juste très sympa, c'est juste très facile.
Et puis, on discute de tout, de rien, d'art, de bouquins, ce qu'elle fait, ce qu'elle a envie dans la vie. Elle parle d'elle, et moi, je parle de moi beaucoup aussi.
Je comprends qu'il a beaucoup de rendez-vous, je comprends qu'il peut certainement coucher très facilement à droite à gauche. Moi, je suis vierge, quoi. Donc, je me dis, ce garçon et moi, on n'a quand même pas grand-chose en commun. Il est trop éloigné de moi.
Et puis, elle me dit, je m'en vais, j'ai un autre rendez-vous cet après-midi chez des amis ou je sais pas où.
Et alors, cette journée-là, du coup, en fait, j'y pense pas trop. Je vais au cinéma, je me souviens de ça. Et je sors du cinéma vers 5h et j'ai un message de lui, en fait.
Tu lui envoies un message dans le sens que j'avais envie de la revoir?
Là, c'est pour moi une grosse nouveauté parce que personne ne m'a jamais fait ce retour. C'est nouveau pour moi, en fait, ce genre de texto. Donc, ça me rassure beaucoup. Ça me fait du bien. Et je me dis, ce garçon, il est chouette, il est gentil, il est charmant. Et en fait, lui... je vais pouvoir l'embrasser. Je l'invite en fait à reboire un verre avec. Enfin voilà, 3 fois je crois, je lui lance l'invitation, on boit un verre. Et puis à chaque fois il me plante.
Donc plusieurs jours après, elle me propose des choses. Et à ce moment-là, je devais certainement avoir des problèmes. Je devais avoir du Airbnb ou je devais voir les enfants ou quelque chose comme ça. Donc j'ai été obligé d'annuler plusieurs fois des verres. C'était pas l'envie de pas aller la voir, c'était vraiment que je pouvais pas aller voir, parce que généralement je dis toujours oui à des rendez-vous.
Alors au bout de 3 fois, je me dis bon, écoute, j'ai compris, tant pis, ça sera pas lui, c'est bête parce que lui, je me sentais de l'embrasser, c'est dommage. Mais je lâche un peu l'affaire. On est en mars 2020, et là c'est le confinement. Le monde s'arrête, et à ce moment-là, je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après le début du confinement. Je reçois un texto de ce garçon que j'ai pas vu, j'ai vu une seule fois il y a un mois et depuis pas de nouvelles vraiment. Et ce garçon me dit comment tu vas? Est-ce que tout va bien pour toi? C'est une période difficile. J'espère que tout va bien pour toi. Et en fait, on s'appelle ce jour-là, on commence à parler, puis on s'appelle le lendemain. On commence à prendre l'habitude de s'appeler beaucoup.
Au début, on communique une fois par jour. Puis 2 fois par jour, et puis on passe des heures en Skype, à papoter, à raconter des bêtises. Puis il y a un jeu de séduction qui se met en place à ce moment-là, donc c'est rigolo.
Le deuxième coup de fil, donc peut-être le deuxième jour, lui tout à coup me dit « Bon, moi je te parle beaucoup de moi, mais toi, parle-moi un peu de toi. » Et en fait, je me dis à ce moment-là « Bon, il va falloir que je lui dise, en fait, mon gros truc. Il faut qu'il sache, quoi. Et je lui dis, moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai jamais eu d'amoureux, en fait. Je suis complètement, complètement vierge. J'ai juste passé une nuit avec un garçon il y a 2-3 ans, mais j'ai jamais eu d'amoureux.
Je me suis dit, c'est encore un truc nouveau qui m'est pas arrivé dans les sites de rencontres, la vierge de 46 ans. Et je me pose 1000 questions, je me dis, c'est quand même, à 46 ans, il y a un truc, il y a un loup quelque part. Et j'ai pas du tout le sentiment d'avoir une vieille fille qui vivait dans sa grotte. Mais c'est complètement déstabilisant parce que ça rentre pas dans les codes.
Après, nos discussions, elles sont pas que là-dessus, elles sont sur tout. Donc, en fait, on passe... à autre chose aussi très vite, on n'en parle pas des heures. Hein. Mais au moins, il sait à qui il a affaire. Ça, c'est important pour moi. Sinon, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une vraie relation, sinon.
Le Skype, ça nous permet de dire plein de choses tout en étant en sécurité dans son cocon personnel. Puisqu'on est dans un cocon qui est le sien, on peut dire encore plus de choses et on peut aller beaucoup plus loin sans que ça porte à conséquence.
Et vraiment, dans ma tête, c'est de me dire... C'est fou parce que le monde s'arrête et moi j'avance, en fait. C'est vraiment cette impression à ce moment-là qu'il se passe un truc pour moi, alors qu'on est supposé tous être cloîtrés chez soi à plus pouvoir avoir aucun lien avec le monde. Et c'est à ce moment-là que moi je me lie avec quelqu'un, quoi. Ça nous permet à nous deux de nous connaître sans avoir cette obligation physique. En fait, qui moi certainement me bloque depuis toujours. Un soir, je sens que, ouais, on se dit qu'on a envie l'un de l'autre, quoi. Et lui, il me dit, je vais prendre ma douche. Et moi, je lui dis, j'ai envie d'être avec toi. Alors, il prend son téléphone et là, il amène son téléphone dans sa salle de bain.
Je suis foutu à poil et puis j'ai pris ma douche. Et c'était un moment rigolo, c'était un moment d'intimité pour lui montrer qu'il n'y avait pas de soucis, qu'il y avait. Qu'il n'y avait pas de problème, que c'était, ça sera simple.
Donc en fait, je le vois nu sous la douche, et je dans ma tête c'est ça, c'est se dire là je suis dans la cour des adultes en fait. C'est un vrai corps d'homme qui a du désir pour moi et ça m'impressionne vachement. C'est la première fois que je vois un corps d'homme puisque avec Thomas c'était dans le noir, mais que je vois un corps d'homme. Et ça rend la chose très réelle, même si on est en virtuel. On vit quelque chose de très réel. C'est la première fois que je me rends compte que je peux, moi aussi, avoir des désirs, en fait, et du désir.
Et puis, je lui ai toujours dit, il faut que tu dises ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu souhaites. Et comme ça, je te dirai si moi, je suis d'accord ou pas. Mais au moins qu'on sache où tu veux aller et où moi, je veux aller.
Et c'est moi qui vais dire, écoute, on va prendre le risque de traverser Paris et de se rencontrer. Moi, j'ai envie de venir chez toi, en fait. Et moi, j'ai envie qu'on passe un moment ensemble et j'ai envie de toi, quoi. Donc, on laisse un peu cette idée en suspens, mais un soir, il m'envoie un texto et il me dit « Bon, j'ai envie de toi, j'ai envie d'être avec toi. Demain matin, tu viens chez moi et tu m'apportes le petit-déj et on passe un moment ensemble. » Et donc, je reçois ce texto, je pense que je dormais déjà, il devait être minuit. Je reçois ça et je me dis, ok, ça y est, je vais le voir, on va passer un moment ensemble demain matin. J'ai pas de stress et je me fais pas du tout le film de on va se voir, on va faire ci, on va faire ça. C'est juste que j'ai très envie, je dors pas beaucoup, mais je pense que j'ai un grand sourire et j'ai qu'une envie, c'est d'y aller en fait. Du coup, le matin, alors je me demande, est-ce que c'est trop tôt, 8h, 8h30, 9h, à quelle heure je dois y aller? Bon, j'en ai marre, j'y vais, il est 8h, c'est un peu tôt, mais tant pis, je prends le 38. Donc, c'est vraiment le bus qui va directement de chez moi à chez lui. Ça traverse Paris, ça traverse la Seine, c'est tout droit. Et je monte dans le 38, où il n'y a personne. Je traverse Paris, je vois Paris vide, ce qui donne aussi une impression très étrange. Et j'arrive chez lui 20 minutes après, dans sa rue vide, et je suis hyper contente de sonner, en fait, à sa porte.
Donc, elle est arrivée avec du bon pain, des pains au chocolat, des œufs et tout ça. Et puis, voilà, ça se passe plutôt bien. Elle est très pressée de passer à l'acte, etc. Donc, j'ai dit, on y va.
Il est très prévenant et l'intérêt, c'est que lui, il a assez d'expérience pour faire les choses bien, pour que je sois bien. Et en fait, il me dit, oh là là, attends, tu saignes. Et je regarde et ouais, je suis, oh mince, c'est vraiment beaucoup de sang. Et donc bah, là, forcément, on se relève très vite du lit et moi, je vais vite à la salle de bain sous la douche et je suis un peu décontenancée parce que ouais, c'est beaucoup de sang en fait. C'est-à-dire que les draps deviennent tout rouges. Moi, je file à la salle de bain dans la douche, mais ça ne s'arrête pas. Je crois que je reste 10 minutes, un quart d'heure dans la salle de bain, ça ne s'arrête pas. Et je me dis, mais mince, personne ne m'a prévenu que ça pouvait être ça. Je ne savais pas que ça pouvait être ça. Je suis embêtée, puis j'ai peur en fait.
Ça m'a impressionnée, vu la quantité de sang. Elle était un peu gênée de cette situation. Je lui dis, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça arrive. Mais dans mon fond intérieur, je me disais, oh lolo, j'espère que ça n'a pas été un truc compliqué.
Comme le sang continue à couler, moi je me sens pas bien. Parce que je me dis, je sais pas, c'est une hémorragie, c'est quelque chose, est-ce que c'est normal ou pas en fait? J'en sais rien si c'est normal, il n'y a pas de normalité à moi, ma situation, encore moins que les autres quoi. Donc lui me dit, tu sais, tu as perdu pas mal de sang, peut-être que tu vas être très fatiguée. Moi, c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Je ne vais pas rester là à discuter avec lui et prendre un café. Mais voilà, moi, je rentre chez moi et je ne sais pas quand on va se retrouver. Mais au moins, je suis plus vierge. J'ai 46 ans et je suis plus vierge. En fait, après le confinement, Olivier a des soucis aussi avec son entreprise, tout ça. Donc, en fait, il se trouve qu'il est obligé de repartir, de partir de Paris. Donc, on ne se revoit pas vraiment souvent. Et on sait qu'au mois d'août, il va pouvoir venir une semaine entièrement à Paris. Et ce sera notre première semaine vraiment ensemble.
On s'entend super bien, on commence à tisser vraiment des liens. Et donc, tout roule jusque-là.
C'est la semaine de la canicule. On est à Paris, dans son petit appartement. Il fait une chaleur affreuse. Et puis, le cinquième jour, en fait, la météo dit qu'enfin, la canicule va s'arrêter. Mais nous, on se dit, bon, peut-être qu'il fait un peu meilleur. On va peut-être aller se balader quand même sur le canal Saint-Martin. Et donc, vers 2 heures, on a marché une bonne heure, même pas. On rentre à la maison. On se déshabille et on se dit on va faire une sieste. Et on s'embrasse et je le vois perdre connaissance. Très vite, alors je cherche le portable pour appeler les secours. Et la personne me dit, est-ce qu'il respire? Et je vois qu'Olivier, là, à ce moment-là, il est un peu violet, il ne respire pas. Alors je lui dis non, il ne respire pas. Ok, et ben, il va falloir le masser. Je me mets à côté de lui et en fait, je commence illico le massage sans me poser de questions. Je masse. Pendant un quart d'heure, je masse. Je suis à la fois hyper assidue et concentrée sur ce que je fais et à la fois je crie à Olivier. Mais Olivier, réveille-toi. Et je pleure. À ce moment-là, j'entends frapper à la porte et je vois arriver des pompiers. À un moment, j'entends dans l'appartement un bip et je comprends en fait que le cœur est revenu. Donc, je vais dans la pièce et je dis, c'est bon, il est revenu. Et quelqu'un me dit, oui, le cœur marche, le cœur fonctionne, mais très faiblement. Mais par contre, on l'a intubé parce qu'il ne respire pas. Je les vois enlever le corps, le porter, et ils l'emmènent à l'hôpital. Le lendemain, je vais le voir, bien sûr, le matin, l'après-midi, je vais le voir. Il est en réanimation, il est dans un coma, ils ont baissé sa température. Donc tout ça, les médecins me font bien comprendre que c'est quand même un peu mal barré, que faut pas avoir trop d'espoir. Et je passe donc une heure le matin et une heure l'après-midi avec lui, à lui parler et à pas savoir ce qui va en être dans les heures à venir. Le lendemain, je retourne le voir à l'hôpital, bien sûr, le matin, j'arrive. Mais là, surprise, dans la même chambre, avec les mêmes fils, les mêmes bips, eh ben, je vois Olivier qui a les yeux ouverts. Il me regarde et il commence à avoir des larmes qui coulent. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as les yeux ouverts, mais c'est dingue! Et un des internes passe à ce moment-là et je lui dis, vous avez vu? C'est fou quand même. Il a les yeux ouverts, ça y est, il est revenu. Et l'interne me dit, oui, alors attention, ça peut être aussi des gestes réflexes. Et moi, je dis au monsieur, mais non, regardez, il me répond. Parce que moi, quand je parle à Olivier, ben, en fait, je vois bien dans ses yeux qu'il me parle. Donc, je dis à l'interne, non, non, je vous assure, il est vraiment là, regardez. Et effectivement, l'interne, je crois, à ce moment-là, se rend compte qu'il est pleinement revenu. Alors, il n'est pas tiré d'affaire parce qu'il ne peut toujours pas parler, il ne peut pas respirer seul. Et puis, on ne sait toujours pas quelles sont les conséquences. Est-ce que son cerveau était touché? En tout cas, il est avec moi, il est là. Et ça, c'est assez miraculeux, en fait. Deux jours après, quand on commence à lui enlever petit à petit les tuyaux, les fils, les médecins n'en reviennent pas qu'il soit revenu. On lui dit même, vous savez, au-delà de 30 minutes d'arrêt cardiaque, il n'y a que 5% des gens qui reviennent. Et dans quel état? Vous, il n'y a aucune séquelle. Donc déjà, c'est magique. Et puis moi, à chaque fois que je suis là, il y a toujours un infirmier ou quelqu'un qui passe et qui me dit « Ah, vous êtes l'ami, c'est vous qui lui avez sauvé la vie. » Et là, je réalise en fait que ce garçon, qui est mon premier amoureux, je viens de le faire revenir à la vie, je lui ai sauvé la vie. Bon, ça, c'est assez dingue, quoi, en fait.
Catherine vient tous les jours à l'hôpital. Elle est très, très présente. Et là, on se rend compte que je ne m'étais pas trompé sur le premier épisode. La personne qui t'aime vraiment est là vraiment pour toi. Quand tu es au fond de ton lit ou dans une chambre d'hôpital. Et ça renforce une intimité, ça renforce une confiance, ça renforce tellement de choses. Et ça se réveille comme une évidence.
Depuis cette semaine d'août, on ne s'est pas quitté en fait. Le fait d'avoir vécu ça avec lui, d'avoir eu cette expérience si forte, fait que ça a accéléré les choses.
C'est vrai que jusque-là, toutes les personnes que j'ai eues, je ne me voyais pas me retrouver dans un couple traditionnel. Et comme Catherine s'est révélée comme une évidence, je suis très bien en couple et je trouve ça super chouette. Et on est dans l'acceptation des envies de chacun, sans que ça nous provoque une frustration, ni être dans le compromis. Et pour qu'il n'y ait pas de compromis, il faut pouvoir s'exprimer, mais vraiment s'exprimer, c'est dire les choses telles qu'on le ressent, au moment où on le ressent.
C'est très naturel, tout ce qu'on partage. Et avant, j'étais certainement pas capable de partager les choses avec qui que ce soit. Là, avec lui, je me suis jamais posé la question, mais c'est plus que naturel. Donc, c'est clair que là, je joue pas un personnage avec lui, je triche pas. Avant, je devais à moi me cacher beaucoup de choses et cacher beaucoup de choses aux autres. Et ben là, c'est fini. Avec lui, je suis pleinement moi-même. Je vis ce que j'ai envie de vivre. Je ressens ce que j'ai envie de ressentir. Et c'est une légèreté de vivre. Mais juste parce que j'ai le droit d'être moi-même, en fait, avec lui. Donc, c'était pas tellement le fait d'être vierge qui pouvait me poser problème, mais en fait, ce qui me pesait autant, c'était le fait de pas vivre pleinement qui j'étais, de pas l'assumer certainement pleinement, et puis de pas m'autoriser à être ce que j'étais vraiment, et à faire croire, en fait. Je faisais croire, mais à force de faire croire, je savais pas qui j'étais, et je savais pas ce que j'étais vraiment.
Cet épisode de passage a été tourné et monté par Lucille Rousseau-Garcia. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. La musique, la réalisation et le mix sont de Bénédicte Schmitt. Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Gérard responsable de production. Mélissa Bounois, directrice des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, plein, et des étoiles, tout autant, et en parler autour de vous, à vos amis, à vos abonnés sur Instagram ou sur Twitter, et même à vos grands-parents. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club, louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, c'est Zoé de Louis et j'ai découvert un nouveau podcast dont j'aimerais vous parler. Il s'agit du podcast Les Voix du Crime, produit par RTL. En tant que grande fan de faits divers, j'ai adoré ces enquêtes judiciaires racontées par des avocats, enquêteurs, proches des victimes, suspects et même coupables. Bref, si vous cherchez un bon podcast d'affaires, écoutez Les Voix du Crime. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.